Bonjour à toutes et tous, vous écoutez Vive le cinéma, votre rendez-vous cinéma hebdomadaire sur Aligre FM le lundi entre 11h et midi. Et ce matin, comme chaque mois, une table ronde critique avec Benoît Basirico, Pierre Charpillot et Bernard Payen dans une émission réalisée par Luca Panture et Enrico Mastro Giovanni. Ce matin, nous allons parler de Dune, deuxième partie de Denis Villeneuve, de Ferrari de Michael Mann, qui est actuellement visible sur Prime, on fait une petite entorse à notre programme Cinéma dans les salles, de Inch'Allah un fils de Amjad Al-Rachid, de La salle des profs de Iker Katak et de Sans jamais nous connaître de Andrew Hay. Et nous vous donnerons aussi quelques coups de cœur de films actuellement en salle supplémentaires et nous écouterons les extraits des BO des films que nous allons discuter ce matin.
Et bonjour à tous.
Bonjour, bonjour.
C'est épique, signé Hans Zimmer, cette musique, le Wonder Boy de la musique de film hollywoodienne. Avec lui, souvent, ça passe ou ça casse. Là, pour Dune 2, je trouve que ça passe musicalement, en tout cas. Hans Zimmer, donc, avec ce Love Theme, la musique que vous venez d'entendre, en fait, cimente la relation entre les personnages de Timothée Chalamet et de Zendaya.
Dans Dune, deuxième partie, Paul Atreides, c'est Timothée Chalamet, s'unit à Chani, c'est Zendaya, et aux Fremen pour mener la révolte contre ceux qui ont anéanti sa famille. Hanté par de sombres prémonitions, il se trouve confronté au plus grand des dilemmes, choisir entre l'amour de sa vie et le destin de l'univers. Alors, qu'est-ce qu'on en a pensé là, autour de la table, Benoît, Bernard ?
Dune 2, moi ce qui m'intéresse dans Dune 2, au-delà évidemment du blockbuster qui est à Hollywood toujours un sujet, il y a certains qui se débrouillent bien avec ce travail industriel. Moi par exemple, je ne suis pas très friand de Christopher Nolan, hein, on pourrait faire un autre débat plus tard là-dessus, mais Denis Villeneuve, voilà, c'est lui qui m'intéresse. C'est-à-dire que derrière le blockbuster, on a Denis Villeneuve qui n'a cessé, même avant d'avoir les budgets, de faire ce travail architectural, de styliste en quelque sorte. Il le faisait même déjà dans des courts-métrages. Donc, il s'adapte à l'environnement industriel du blockbuster, mais il fait du Denis Villeneuve ce qu'il aime faire. Et ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est, au-delà du style Denis Villeneuve, c'est d'être avec ce jeune homme, cet apprentissage, à la fois sentimental et guerrier, comme un Jedi, quelque part, mais c'est presque l'anti-Star Wars, parce que ce Jedi-là est non platonique, hein, il consomme sa romance. Y a aussi le refus d'être un messie, alors qu'évidemment, dans Star Wars, il y a, l'affabulation du Jedi, l'affabulation du messie, on érige en mythe le récit. Ici, on déconstruit le mythe, jusqu'à l'abstraction. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça devient que des couleurs et des images. Donc voilà ce qui m'a plu en partie.
Bah oui, tu parlais d'anti-Star Wars, c'est presque anti-blockbuster aussi. Enfin, c'est ça que je trouve intéressant dans le film, c'est comment il travaille cette sobriété. C'était déjà le cas dans la première partie. Et comment il y a presque un refus de faire un blockbuster massif avec beaucoup de batailles, un son tonitruant, des fonds verts, puisqu'il a tourné dans ce fameux désert jordanien où avait déjà tourné David Lean dans Lawrence d'Arabie. Et c'est ça que j'aime bien et que je retiens énormément dans le film, c'est cette sensorialité qui passe beaucoup par la façon de filmer et de faire entendre le sable, notamment dans le film. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans le Enfin, on pourrait parler du son dans le film, en fait. C'est ça qui m'intéresse énormément. On le sentait un peu déjà dans la retranscription que fait Hans Zimmer dans sa musique, où il reprend un peu cette sensorialité-là. Et je trouve qu'on pourrait... On pourrait raconter tout le film par le son, on pourrait raconter Timothée Chalamet par le son. Le fait que dans la première partie, toute la première partie, j'ai chuchotement comme ça, il parle comme ça, vraiment. Pendant toute la première partie du film, il est comme ça. Et puis d'un seul coup, il devient chef, il devient le messie. Et là, c'est beaucoup plus fort, beaucoup plus tonitruant. Il a sa voix de chef. Et là, en plus, il parle avec le langage Fremen, que je vais pas tenter de vous imiter. Et puis, il y a cette scène très, très étrange à la fin, sans forcément divulguer quoi que ce soit, mais en tout cas, il y a un combat à la fin, où il y a ces étranges allaitements de Timothée Chalamet pendant ce combat. Et en fait, ces trois phases, ces trois parties-là racontent un peu le personnage dans le film, quoi. Donc, je trouve ça très, très intéressant. Et puis, il y a beaucoup de choses qui font sourire aussi dans le film, c'est cette espèce de partie de cache-cache qu'on peut avoir avec les personnages et les comédiens qui les incarnent. Donc le fait que, par exemple, Timothée Chalamet, on le voit pas du tout dans cette fameuse scène incroyable, très attendue aussi, où il chevauche le fameux ver géant dans le désert. Et puis Charlotte Rampling, qu'on voit pratiquement pas derrière son masque.
Léa Seydoux aussi.
Léa Seydoux, qu'on voit une scène et puis qui s'en va. Voilà, il y a une vraie Austin Butler.
Anya Taylor-Joy, qui a quand même une place incroyable. Petite apparition, oui.
Bah, je te laisse continuer, Pierre.
Parce
t'avais fait le bel enchaînement, parce que je trouvais ça intéressant, cette façon de masquer qui rajoute finalement dans la sobriété du film, en tout cas la discrétion qu'on peut trouver dans Dune 2.
Oui, qui joue aussi effectivement de l'attente qu'on peut avoir vis-à-vis de certains acteurs connus, des personnages qu'ils incarnent et qui ne nous satisfait pas toujours ou nous emmènent dans des endroits assez différents. C'est vrai que ça, c'est assez amusant. Et Benoît, tu parlais effectivement de la place de Denis Villeneuve comme réalisateur de blockbuster et que finalement qu'il y trouve sa place. Je suis assez d'accord pour détester vraiment les films qu'il faisait avant Hollywood, en particulier Polytechnique et Incendie, voilà, qui sont des films que je trouve très très lourdingue, et c'est un cinéaste qui plus il fait des films sans message, sans volonté de raconter quelque chose au-delà du plaisir spectaculaire, mieux il s'en sort. Enfin, son meilleur film pour moi, ça reste Sicario, qui était quand même un chef-d'œuvre de mise en scène épique, et ce qu'on retrouve un peu effectivement dans Dune. Alors il y a cette sobriété que t'évoquais, Bernard, qui est quand même moins présent que dans le premier, parce que le premier c'était tellement de sobriété que le film terminé, on avait l'impression qu'il n'avait pas encore commencé, donc il y avait un peu ce côté très étrange au niveau du scénario. Là, c'est un peu plus construit, se passe plus de choses, il y a un peu plus de scènes d'action, il y a un peu plus aussi de côté très romancé de cette histoire qui avance de manière progressive, même si on trouve toujours un peu, je trouve, ce côté assez étrange avec des espèces de trous dans le scénario, c'est-à-dire l'histoire d'amour qu'on nous vend entre Paul Atreides et Shani, entre Timothée Chalamet et Zendaya, elle est quand même assez peu compréhensible. On n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'ils tombent amoureux l'un de l'autre. D'un coup, ils sont ensemble. Après, ils ne sont plus ensemble. C'est très, très bizarre. La manière dont les choses arrivent est racontée par ellipse, mais parfois des ellipses qui semblent un peu maladroites, je trouve. Et c'est un peu le même cas de la manière dont le personnage de Timothée Chalamet devient cette espèce de leader charismatique à la fin du film. Ça arrive d'un coup, sans qu'on s'y attend. On a un peu du mal à comprendre comment est-ce qu'il change de côté, plus ou moins, par rapport à sa mère. Il y a des choses qui sont pas très claires d'un point de vue scénaristique, mais ça me gêne pas trop. Enfin, moi, ça me dérange pas trop ces ellipses-là. Et c'est vrai qu'il s'en sort très bien dans sa mise en scène, avec de très, très belles idées. Les costumes, on en a parlé, effectivement, des personnages féminins. Des choses un peu bizarres, comme par exemple le fait que les Fremen parlent un espèce d'arabe revisité touche un tout petit peu à l'appropriation culturelle, surtout quand on voit que le casting est assez international et assez peu représentant de gens qui parlent effectivement cette langue, ce qui est, pourquoi pas. Mais finalement, ça fonctionne assez bien et je trouve qu'on est assez pris dans ce côté épique et il sait faire ça assez bien, c'est assez grandiose, effectivement.
Oui, les pics. Mais par rapport aux ellipses, c'est vrai que, par exemple, j'ai préféré ce deuxième opus au premier, qui, lui, devait présenter tous les personnages, devait nous introduire dans l'univers, pour ceux qui n'avaient pas lu Herbert. Alors que là, on est directement dans l'univers, et donc le 2 est meilleur au premier, et c'est souvent le cas, d'ailleurs, dans les suites, puisqu'on se dispense de l'introduction, et directement, on est dans les tableaux géants qui se présentent à nous. Il est moins bavard que le premier. Et malgré les ellipses, j'ai aussi aimé cette unité d'espace et de temps, c'est-à-dire qu'on est toujours au même endroit, et on ressent, et Bernard, tu disais, le travail sur le son, c'est-à-dire qu'on est dans l'immersion, dans le climat, quelque chose de climatique, ce son du vent, le sable, et dans un blockbuster, je trouve que souvent, ils ont peur du silence, et bien là, il y a des traversées du désert dans le silence, et ça, je trouve ça assez tétanisant, et Denis Villeneuve est aussi à l'aise avec les scènes de foule, les affrontements, parfois, c'est presque digne d'un film muet, c'est-à-dire qu'il a confiance en l'image, dans le montage, et donc parfois il y a du Eisenstein, il y a du King Vidor, il y a vraiment un vrai travail formel digne d'un film muet, je trouve.
Il adore le désert, Denis Villeneuve. Il avait filmé dans Incendie, que tu citais, Pierre, et puis dans Blade Runner notamment. Enfin, on sent que le film est finalement assez personnel au bout du compte.
Et on voit Christopher Walken, qu'on n'a plus vu depuis quelques temps, effectivement, dans ce rôle d'empereur vieillissant. Plutôt pas mal, il y a un bon casting quoi, globalement il y a un bon casting, et on a un peu envie de voir la suite aussi, parce que le film se termine, comme ces films de franchise le font toujours, par un cliffhanger qui nous donne envie de voir une suite potentielle, dont on n'est pas sûr encore que Denis Villeneuve la fera ou non, mais on espère.
Et puis on a hâte de voir Zendaya dans le rôle de Cléopâtre.
Oui, notre histoire.
Une autre histoire.
Encore du désert, mais différent.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
À l'instant, nous venons d'entendre la musique de Daniel Pemberton. Daniel Pemberton qui, pour moi, est l'un des plus talentueux compositeurs à Hollywood. Il arrive à vraiment varier les univers, les styles d'un film à l'autre. Il a d'ailleurs travaillé avec Ridley Scott par le passé. Daniel Pemberton, donc, pour Ferrari de Michael Mann, avec cette partition épique également. Et on entend dans les percussions les bolides.
Et oui, c'est l'été 1957. Derrière le spectacle de la Formule 1, l'ancien coureur Enzo Ferrari est en crise. La faillite menace l'usine que lui et sa femme Laura ont construite à partir de rien 10 ans plus tôt. Leur mariage instable a été ébranlé par la perte de leur fils, Dino, 1 an plus tôt. Ferrari a du mal à reconnaître son fils Piero avec Lina Lardi. Pendant ce temps, la passion de ses pilotes pour la victoire les pousse à la limite, alors qu'ils se lancent dans la périlleuse course de 1000 miles à travers l'Italie, la Mille Miglia. C'est Ferrari de Michael Mann, film Amazon Prime.
Amazon Prime, on fait un petit écart, hein, parce que le film n'est malheureusement pas vu en salle en France. Il est sorti dans d'autres, il est sorti au cinéma dans d'autres pays. C'est un film d'un obsessionnel, de plusieurs obsessionnels en fait, parce que Michael Mann raconte que quand il était en étudiant en cinéma à Londres, il avait vu une Ferrari sortir comme ça, débouler dans la rue, et que ça avait été un gros choc pour lui. Quand on regarde un peu le générique et quand on regarde un peu d'où vient le film, c'est adapté d'un livre de Brock Yates qui est sorti en 91, Enzo Ferrari, l'homme et la machine, qui a été adapté par Troy Kennedy Martin, qui était lui-même obsédé par les voitures, parce qu'on les retrouve beaucoup dans les scénarios qu'il a écrits. Je pense à Z-Cars, qui raconte le quotidien de policiers qui se déplaçaient dans des voitures rapides, ou bien Italian Job, L'Or se barre, qui est un film de casse, où L'Or se trouvait dans des Fiat Mini. Donc ça, c'est vraiment la base que s'est approprié évidemment Michael Mann dans ce film, qui est intéressant parce qu'il raconte à la fois un nœud intime et un personnage, qui raconte les fêlures d'un personnage à un moment précis de sa vie, à un moment précis de tension de sa vie. d'Enzo Ferrari, et en même temps c'est un film très très spectaculaire. Et moi, ce qui me frappe dans le film, d'un point de vue, dans la manière dont Michael Mann se réapproprie cette histoire là c'est que c'est un film profondément funèbre, qu'il s'agisse du personnage d'Enzo, donc cet homme en deuil qui... Le film s'ouvre et se ferme dans un cimetière, le cimetière où est enterré son fils qui est mort à 24 ans. Et puis, tous ces accidents qui montrent que le sport automobile, encore plus à cette époque, était extrêmement violent. Et il y a notamment cette scène assez dingue où la voiture, une Ferrari, fauche les spectateurs à la fin du film. Mmh. Et là, on voit des corps démembrés, des yeux de cadavres exorbités. Et avec cette image hyper réaliste numérique, cette image que Michael Mann travaille depuis Collateral à peu près, je crois que c'est son premier film qu'il a fait en numérique. Et c'est ça, au fond, qui m'a frappé avec ce film, c'est cette image extrêmement lisse, qu'on pourrait presque sortir de l'intelligence artificielle, cette image en plus qui est retravaillée dans une certaine luminosité pour les plateformes. Il faut rappeler que Eric Messerschmidt, qui est le chef-op de David Fincher, notamment qui a fait l'image de The Killer pour Netflix, c'est lui qui a fait l'image du film. Donc cette image lisse au possible, et puis qui montre le funèbre, la tragédie, l'horreur, dans ce mélange avec cette automobile vermillon comme engin de mort, et tout ça finalement absorbé par ce grand corps vieilli pour le film, qui est celui d'Adam Driver. Voilà.
Benoît.
Ouais, je suis. Alors, je vais dire presque l'inverse de ce que je disais sur Denis Villeneuve. D'une part, j'ai jamais vraiment été un aficionado de Michael Mann. Alors, je sais qu'il a ses grands adorateurs. Jean-Baptiste Torré a pu en faire des livres, des documentaires. J'ai jamais aimé, peut-être parce que je l'ai trouvé toujours trop glacial et pas assez émouvant. Toujours privilégiant l'aspect solennel, ériger les mythes, et de manière même assez figée sur l'image. Et qui manquait toujours de vitalité. Et je le retrouve ici dans Ferrari, bien qu'il s'intéresse davantage à la vie privée du constructeur, à ses déboires conjugaux, à sa double vie, que à ses courses et à son industrie. Malgré cela, c'est pas émouvant, je trouve, ça manque de rythme, c'est un comble pour des courses automobiles. Donc très figé et même bavard, qui en ferait, c'est sur les plateformes, mais finalement un bon téléfilm. Et en même temps, on n'apprend rien du constructeur, donc même le côté biopic sur ses affaires de cœur, d'argent, de pouvoir, n'est pas très didactique. Ça pourrait être un avantage que ça ne le soit pas, mais puisque j'ai trouvé le film désintéressant et peu émouvant, le côté didactique aurait au moins servi à quelque chose. Peut-être ce que je peux retenir, c'est le côté film de mafia. On a l'impression un peu de voir le parrain avec cette figure patriarche. Il y a un côté aussi film d'opéra. L'Italie est présente, on entend des opéras dans la bande-son. Donc peut-être que ce côté shakespearien, opératique, film de mafia, peut être le sillon à creuser pour une deuxième vision.
Oui, bah, je suis assez d'accord avec tout ce que tu dis, Benoît. Moi non plus, je ne suis pas du tout un aficionado de Michael Mann. Je suis un cinéaste que je suis souvent passé à côté. J'ai un peu du mal à comprendre pourquoi il fascine tellement. Moi, il me fait pas mal penser à Paul Schrader, que j'aime pas trop non plus pour les mêmes raisons. C'est des cinéastes qui mettent un espèce de vernis intellectuel sur des films assez grand public et qui me semble un peu facile et très en deçà de ce qu'on pourrait retrouver par exemple dans la littérature. Et il me semble que c'est des cinéastes qui veulent faire un peu de littérature en faisant des films, mais ça passe pas très bien selon moi. Et quant à Ferrari en particulier, effectivement, bah c'est un film où il est question normalement de vitesse. On parle quand même de Formule 1, de Ferrari, et c'est un film qui est d'une lenteur assez compliqué à plusieurs moments. On a du mal à suivre le rythme et même à proprement parler dans les scènes de course qui sont des scènes assez importantes. Tu les as mentionnées, Bernard, justement à la fin du film. Bah, c'est la manière dont la vitesse est filmée, ça ne fonctionne pas du tout pour moi, alors qu'il y a tout un genre du film de bagnole entre guillemets qui savent filmer la vitesse, le rythme. Récemment, on a eu Le Mans 66 dans un genre similaire. C'était quand même un peu autre chose, je trouve, en termes de mise en scène. Et puis effectivement, je te rejoins complètement, Benoît. Il y a plusieurs sortes de biopics, quoi. Il y a les biopics qui couvrent toute la vie des personnages auxquels ils s'intéressent, de leur naissance à leur mort, avec leur apogée et leur déclin. Et puis il y a les biopics qui s'intéressent à des moments particuliers, des moments précis qui sont censés, de manière métaphorique, raconter les personnages qu'ils ont été dans toute leur complexité. Et c'est ce que semble vouloir faire Michael Mann en s'intéressant à un moment très précis de la vie à la fois professionnelle d'Enzo Ferrari et de la vie intime d'Enzo Ferrari, sa relation avec sa femme, avec sa maîtresse, son fils caché, etc. Mais vraiment, on sort de ce film, on se dit, mais pourquoi a-t-il voulu nous raconter cette histoire-là? Qu'est-ce qu'elle a de si intéressante? Qu'est-ce qu'elle raconte sur l'homme et la machine, pour reprendre le titre du roman dont le film, effectivement, comme tu le disais, Bernard, est inspiré? J'ai du mal à comprendre qu'est-ce qu'on nous raconte, pourquoi est-ce qu'on nous raconte ça? Et moi, ça me laisse... Je suis passé à côté... totalement de ce film.
Ah, il faut quand même dire un truc, enfin, ça plaît pas aux fans de Michael Mann, mais les personnages féminins du film sont atroces.
Ah oui, toujours d'ailleurs dans son œuvre, les films.
Alors voilà, je sais que les fans contestent ça, mais ouais. En tout cas, dans ce film, c'est particulièrement vrai pour Penélope Cruz, qui est filmée vraiment de manière vilaine. Et c'est un personnage qui est montré comme ça, toujours dans des plans sombres, un peu comme une sorcière, avec cet horrible accent italien. J'aime pas du tout ce qu'elle en fait, en plus, de ce personnage, et comment elle est dirigée. Et l'autre femme de Ferrari, aussi, est presque une ombre dans le film. Et je trouve les personnages sont vraiment très... très... Vraiment pas bien.
Tout à fait. Alors, pour une petite parenthèse, pour ceux qui nous écoutent, il y aura à l'avenir dans l'émission des journalistes femmes, on y pense. D'ailleurs, si vous voulez vous manifester.
C'est pas notre côté Michael Mann. Voilà.
Si vous voulez vous manifester, n'hésitez pas, en tout cas, parce que bon, à Aligre, on est tous bénévoles, donc évidemment, on n'attend pas des journalistes professionnels, mais si vous êtes, vous avez un blog de critique, n'hésitez pas à nous contacter. Nous enrichirons cette table ronde d'une voix féminine.
Et on nous contacte comment ?
Via Facebook, par exemple, il y a une page Vive le cinéma.
Voilà, très bien. Merci pour ce message.
On continue.
Moins tonitruante que les deux premières que l'on a entendues, évidemment, musique plus climatique, plus atmosphérique pour ce film jordanien, Inch'Allah un fils, partition composée par Jerry Lane et Andrew Lancaster.
Jordanie, de nos jours, après la mort soudaine de son mari, Nawal, 30 ans, doit se battre pour sa part d'héritage afin de sauver sa fille et sa maison dans une société où avoir un fils changerait la donne. C'est Inch'Allah un fils.
C'est un film qui était présenté à la semaine de la critique, il faut le rappeler, à Cannes l'année dernière, qui vient de sortir. Donc c'est un récit d'émancipation féministe comme on en avait déjà vu par le passé, mais il est remarquablement porté par la comédienne Mouna Hawa, qui a été remarquée en 2017 dans « Je danserai si je veux ». C'est une comédienne arabe-israélienne qui est de tous les plans, qui joue cette femme, Nawal, qui doit incarner beaucoup d'émotions très différentes. Donc, y a, notamment parce qu'il y a beaucoup de rebondissements dans le film, il y a beaucoup d'intrigues parallèles, notamment avec une femme qui va se retrouver enceinte d'un homme avec qui elle n'est pas mariée, qui va devoir avorter. Donc voilà, c'est aussi un plaidoyer total. Et le film, à un moment, se retrouve donc à raconter ses destins féminins. Et dans la forme, ça devient aussi un thriller. C'est ça qui est aussi intéressant. C'est un film tendu, une mise en scène qui place le personnage, dans un décor étouffant. Il y a très peu de plans de liaison, par exemple, entre les différentes scènes, puisqu'il y a beaucoup d'allées venues du personnage entre sa maison et l'endroit où elle travaille, par exemple. Et il y a notamment juste ce plan de cet homme qu'elle croise, qui lui répète chaque jour « Je veux être ton sac ». Et qui, voilà, c'est le seul plan de liaison pratiquement dans le film et qui aboutira d'ailleurs à une résolution finale à la fin. Mais voilà, donc c'est à la fois un récit classique, mais en même temps une mise en scène qui travaille beaucoup cette tension-là et qui travaille beaucoup le détail. C'est ça qui m'a frappé dès le premier plan du film, qui est intéressant parce qu'il raconte presque beaucoup de choses du film avec ce panneau sur cette ville qui est très peu filmée, finalement, Amman, en Jordanie. Et donc ce panneau sur cette ville au crépuscule entre chien et loup et qui aboutit à un soutien-gorge qui est suspendu parce qu'il s'est échappé du balcon où il est en train de sécher. Et donc, Nawal, le personnage principal, essaye de le récupérer et il tombe au moment où passe un homme en bas. Et donc, elle est obligée de se cacher. Et donc, voilà, il y a vraiment ce sens du détail qui apparaît dans plein de scènes, notamment ce fameux pick-up qui est la propriété de son mari, donc qu'elle vient de perdre. Et qu'elle ne veut pas vendre, qu'elle veut garder avec elle. On ne sait pas pourquoi, finalement, parce qu'elle ne sait pas conduire. Donc, elle va être obligée d'apprendre aussi à conduire. Ce pick-up symbolise aussi beaucoup de choses de lien qu'elle avait avec son mari et de son émancipation aussi, puisqu'elle finira, quelque part, par pouvoir le déplacer alors qu'il bloque l'entrée dans la rue de chez elle. Et y a tout un truc aussi très intéressant dans ce personnage avec ses cheveux. Le fait qu'elle soit dans l'espace public ou l'espace privé, qu'elle montre ou qu'elle cache ses cheveux, enfin, ça raconte aussi beaucoup du personnage. Donc le film a l'apparence comme ça d'un récit classique, mais il y a beaucoup de choses qui travaillent la mise en scène et le récit.
Alors j'ai un souvenir qui vient de Cannes, hein, je ne l'ai pas revu depuis mai dernier, et ce qui me reste, c'est moins les détails en effet, mais ce qui me reste, c'est déjà avoir pensé à Faraday à la vue de ce film, mais pour ne pas avoir beaucoup aimé les derniers films de Faraday, d'avoir eu le sentiment d'avoir préféré ce Inch'Allah un fils, parce que contrairement à Faraday, j'ai été connecté à une humanité. Là où dans Faraday, souvent il y a des archétypes humains et assez dévitalisés, là il y a cette femme centrale, son combat. Elle s'élève contre le patriarcat pour préserver sa maison, la garde de sa fille. Donc, il y a cette trace d'humanité contre un système qui broie. L'étude de classe sociale, de la bourgeoisie vénale. Donc voilà, connecté à cette femme, j'ai trouvé ça très émouvant, très fort. Et puis évidemment, ça se transforme en thriller parce qu'à travers son regard, il y a de la peur, il y a de la tension, il y a de la crainte, etc. Et puis aussi, c'est l'éloge de la fiction. C'est-à-dire qu'à travers, malgré tout, du réalisme, comme on peut en trouver chez Faraday, il y a le mensonge. Elle doit mentir pour parvenir à ses fins, donc elle monte ce stratège. Et là, on voit un peu toutes les ficelles, finalement, d'une manipulation. Et c'est aussi très, très jubilatoire, quelque part.
Ouais, moi, je suis moins convaincu que vous. Moi, c'est vraiment un film qui me pose un peu problème. Déjà, pour moi, c'est un peu l'archétype de ce cinéma qui se passe au Moyen-Orient, mais qui est destiné quasiment exclusivement à un public occidental, qui nous montre un monde arabe assez flou. D'ailleurs, ça se passe en Jordanie, mais ça pourrait se passer n'importe où. On s'intéresse assez peu à la réalité de ce que c'est ce pays. Cette ville, Amman, effectivement, on la voit, mais pour moi, ça pourrait être tout à fait interchangeable avec n'importe quel autre pays. À la différence, par exemple, d'un film qui s'appelle Les Lueurs d'Aden, qui se passe au Yémen, sur un sujet similaire, qui lui s'intéressait vraiment à comment est-ce qu'on filme une ville et à quoi ressemble cette ville et la particularité de cette ville et de vivre dans cette ville-là. Là, ça n'a aucun, à mon sens, intérêt que ça se passe en Jordanie. Et c'est une vision du monde arabe, effectivement, où les gens sont presque des sauvages, où les femmes ont du mal à vivre de manière indépendante, etc. Enfin, c'est qui est certes peut-être une vérité, mais qui est une vision vraiment destinée à un public occidental à nouveau. ça me pose problème. La mise en scène est assez classique. Et surtout, quand on voit le financement du film, alors ça, c'est quelque chose, c'est un peu un truc, une marotte que j'ai personnellement. C'est un film qui est financé à la fois par le Doha Film Institute et par le Red Sea Film Fund. Donc, le Doha Film Institute, c'est le fonds d'investissement pour le cinéma, la cinémathèque, centre du cinéma de Doha au Qatar, qui finance énormément de films engagés sur des sujets féministes ou autres, des films qui ne sont pas du tout vus ni au Qatar en dehors du Doha Film Institute, ni dans les pays en question, mais uniquement en Occident, en Europe ou aux États-Unis. Financé donc par le Qatar, qui n'est pas forcément le pays le plus enclin à défendre la cause féministe dans ses affaires intérieures. Et par ailleurs, donc, il y a le Doha Film Institute et comme autre financière, le Red Sea Film Fund, qui est un peu l'équivalent en Arabie Saoudite, lié au Red Sea Film Festival en Arabie Saoudite. Aussi le Fonds souverain d'Arabie Saoudite. Quand on voit aussi la place des femmes et la question du féminisme dans ce pays-là, ça peut sembler surprenant. Donc moi, je m'interroge vraiment sur ces films-là qui sont financés par des pays dans lesquels la question du féminisme est encore vraiment un combat d'actualité. Et quand on sait que, voilà, on s'énerve, on s'engage quand on voit que la Coupe du Monde est financée par le Qatar ou ce genre de choses, ben, je pense qu'on devrait faire un peu plus attention au cinéma et en particulier au cinéma d'auteur qu'on croit engagé sur ces sujets, mais qui, à mon avis, est un peu plus dangereux et pernicieux que ça en matière de politique et de géopolitique et de soft power de pays qui ont une certaine puissance. Voilà, donc moi, ça me pose un peu question.
On s'est fait avoir, quoi.
C'est une question passionnante, qui mériterait d'ailleurs une émission entière, parce que à discuter, parce que en fait, ça pose plein de questions, ce que tu dis. Ça pose aussi la question de la manière dont ces films-là sont écrits, le problème de formation des scénaristes, des réalisateurs, le fait qu'on soit obligé de faire appel aussi à des... c'est le cas pour ce film, une scénariste française, Delphine Agut, qui, voilà, forcément, a... Va aider à la structure, mais va aussi aider à faire passer une histoire et à convaincre aussi un public occidental.
Pour nuancer ce que Pierre dit, c'est-à-dire qu'il y a du soft power partout. On pourrait même dire que le cinéma français fait aussi du soft power à l'international.
Mais là, ce qui se passe, c'est que l'Arabie Saoudite et le Qatar remplacent la France. C'est-à-dire que la France, avec l'aide au cinéma du monde, avant était le principal financeur de ces films de pays qui n'avaient pas de puissance industrielle pour financer du cinéma en interne et en particulier du cinéma d'auteur, ce qui pouvait poser question aussi néocolonialisme ou ce genre de choses. Mais on peut quand même se dire que la France est une démocratie qui prône des valeurs un peu plus humanistes que celles... Après, c'est une question de point de vue et c'est une question économique. C'est un film qui est une coproduction franco-jordanienne. La Jordanie en elle-même... Peu de producteurs auraient peut-être pu financer ce film tout seul, sans l'aide du Qatar, sans l'aide de l'Arabie Saoudite et sans l'aide de la France. Mais en même temps, est-ce qu'ils auraient voulu faire ce film ? Est-ce que c'est un film qui raconte quelque chose pour les Jordaniens ? Est-ce que c'est véritablement un film jordanien ? C'est plein de questions qui, moi, m'interrogent un peu, quoi.
Et donc, tu repères du cynisme, finalement, derrière le...
Pas du cynisme, non, mais je pense qu'il n'y a pas de cynisme de la part du réalisateur, en fait. Mais je pense qu'il est plein de bonnes intentions, le réalisateur. Mais malgré tout, à force de réécriture, à force de faire des films pour tel ou tel public, je me dis qu'est-ce que ça raconte véritablement sur la Jordanie d'aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça raconte sur la place des femmes ? Est-ce que ça va nous faire nous engager particulièrement pour un combat particulier ? Ou est-ce que ça fait juste répéter une image un peu stéréotypée et qu'on se dit « Ah oui, bah oui, de toute façon, c'est comme ça que ça se passe dans le Moyen-Orient, hein, les femmes sont voilées, vous savez, c'est compliqué, c'est difficile. » Mais ça raconte rien de spécial, quoi. Et donc moi, ça m'énerve de voir ces films qui sont... Finalement, même s'ils sont bien faits, même s'ils ont une force d'écriture, de mise en scène, qui sont quand même globalement toujours les mêmes et qui ne nous apportent rien de plus que ça et qui cacheraient peut-être des films qui pourraient être plus intéressants sur la particularité d'un pays et d'une situation qui malgré tout, même s'il y a des ressemblances dans les pays du Moyen-Orient, c'est pas le Moyen-Orient, c'est pas un grand ensemble uniforme, quoi.
Et je suis d'accord avec toi sur le fait que le film, peu importe que ce soit en Jordanie finalement, et ça je suis d'accord sur le fait que on aurait pu me dire que c'est un film iranien, j'aurais pas été surpris, enfin voilà. Mais cette universalité là, moi j'étais ému de ce combat de femmes, enfin voilà, je vais pas me répéter, mais finalement cette humanité là, malgré tout ce qu'on vient de dire, je trouve que malgré tout j'ai peu vu à ce point-là un combat qui est proche d'aboutir sans divulgâcher. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans les films comme ça, orientaux, qui sont souvent très très mécaniques et où il y a un système qui broie et qui broie jusqu'au bout. Là, je trouve qu'il y a quand même de l'optimisme qui est peut-être justement déguisé, cynique par rapport au contexte de production. Mais bon, voilà, j'ai plutôt apprécié que finalement, là, pour une fois, il y a un combat qui aboutit.
Non, mais ça pose aussi la question des films de festival qui sont pas vus dans leur propre pays. C'est pas lié à la Jordanie, c'est lié à plein de films dans le monde qui sont d'ailleurs souvent des coproductions avec la France et qui sont pas vus dans leur propre pays. Donc c'est une question assez passionnante, mais qui sous-estime en tout cas la force du cinéma aujourd'hui comme pouvoir de persuasion politique.
Inch'Allah.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Me lo dijo una flor, abrazo un gris dolor, sonrisas en la niebla. En tu alma un remolino, en el vientre divino, flores de primavera. Lo dijo el colibrí, madres pueden abrir tantos mares y tierras. Historias contarán, montañas cruzarán, la herencia de la entrega. Y cuando por las noches quisiera soledad, me pierda tu sonrisa, luz en la oscuridad. Solo quiero saber de ti, si me lo has perdonado. Te doy todo el amor y mis años dorados.
Voilà cette petite chanson en intermède qui est issue de la BO du film La vie de ma mère, avec la voix de Agnès Jaoui à l'instant, Melo diro una flor, avec la musique et le violoncelle de Dom Lanena, une artiste que j'apprécie énormément, qui vient de signer sa deuxième BO. Malheureusement pour l'instant, pas de grand film derrière ses musiques, mais un jour elle aura son grand film, La vie de ma mère, voilà, j'ai beaucoup de réserves sur ce film. Agnès Jaoui reste épatante, et cette chanson qui clôture le film le clôture d'une manière très belle. Cet intermède de chanson permet d'introduire un peu le moment nouveau dans l'émission où l'on citera chacun d'autres films qui sont hors du débat.
Oui, moment nouveau, là, c'est la deuxième émission, donc on peut se permettre encore des nouveautés. Bah, puisque c'est une règle, moi j'aime bien ne pas respecter les règles, j'ai décidé de ne pas citer un film, mais plutôt un livre de cinéma qui s'appelle « La première femme de Georges Cukor » d'Alexandre Pilétich aux éditions Marest. C'est le portrait d'une actrice, d'une star oubliée du cinéma des années 20 et en 30, et en creux aussi celui de son réalisateur fétiche, évidemment, l'immense Georges Cukor. Alors c'est assez romanesque, c'est assez passionnant si on s'intéresse aux histoires oubliées du cinéma ou d'une époque qu'on connaît assez peu finalement et qu'on a tendance parfois un peu à fantasmer, celle du pré-code, celle d'Hollywood Babylone de Kenneth Anger ou du Babylone de Damien Chazelle, donc, qui sont des versions un peu peut-être très romantiques de ce qu'a été cette période-là. Donc là, la lecture romantique en moins, ça reste plus réaliste et on s'intéresse véritablement à ces actrices et leur place qu'elles avaient dans cette industrie particulière. Et c'est donc, si vous aimez le cinéma, si vous aimez Georges Cukor, et peut-être si vous aimez aussi Katharine Hepburn, puisque c'est un peu l'actrice qui précède Katharine Hepburn dans le côté, le lien avec Georges Cukor et la place qu'elle a eue dans l'histoire du cinéma. Voilà, c'est Constance Bennett, cette actrice. Et donc, c'est le livre La première femme de Georges Cukor d'Alexandre Pilétich chez Marest. Bernard, Benoît? Un conseil.
Moi, je voudrais évoquer La mère de tous les mensonges. C'est un film de Asmaël Moudir, un film marocain qui est sorti il y a 10 jours, je crois. Donc c'était un essai documentaire. La cinéaste enquête sur sa famille, sur les images manquantes de sa famille. D'ailleurs, ça fait beaucoup penser au film de Ritipan, L'image manquante, au début, en tout cas le point de départ. Donc elle enquête sur les traumas, les non-dits de sa famille qui vont la mener à évoquer une période sombre de l'histoire du Maroc en juin 81 à Casablanca, où des émeutes avaient été violemment réprimées La famille de la réalisatrice s'était retrouvée au centre de cette tragédie à ce moment-là. 600 personnes avaient été tuées. Et la singularité du film se retrouve dans la forme. C'est un film en huis clos dans lequel elle demande à son père de créer des marionnettes pour raconter l'histoire de sa famille, pour raconter tout ce qui s'est passé et tout ce qui n'est pas aussi montrable, aussi par manque d'archives. Et elle va cuisiner sa grand-mère, qui est un personnage fascinant, cruel, mutique, la gardienne des secrets. C'est un personnage assez dément. Elle arrive à faire de ce personnage réel un personnage mythologique. Le film avait reçu le prix de la mise en scène à Cannes à un certain regard l'année dernière. Voilà. Et comme j'aime pas non plus les règles, bah, j'ai deux autres, en tout cas, infos à dire, puisqu'on n'aura pas le temps à la fin, donc je les dis tout de suite. Donc d'abord, pour dire que dimanche prochain, le 24 mars à 11h au Majestic Bastille, il y aura une séance en soutien au cinéma argentin qui va très mal en ce moment depuis l'élection de Javier Milei qui est en train de tout détruire le cinéma argentin. Donc il y a une séance en soutien à 11h au Majestic Bastille avec El Castillo de Martin Benchimol qui a été présenté à la Berlinale en 2023. Et dire aussi que cette semaine commence la fête du court-métrage. C'est la 8e édition de la fête du court-métrage un peu partout à Paris et en France. Beaucoup de rencontres, d'événements, de projections et d'invités. Simplement un site, lafêteducourt.com.
Très bien. Et ma recommandation, alors j'étais très fidèle.
Seul à respecter les règles.
Voilà. Un film, The Sweet East, qui était présenté à la quinzaine des réalisateurs en mai dernier. Premier film de Sean Price-Williams, du moins en solo, puisqu'il en avait co-réalisé un. Et puis on l'a connu surtout en tant que chef opérateur, notamment des frères Safdie sur Good Time. Sean Price-Williams, donc, sur The Sweet East, qui est interprété déjà, moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'au cœur du film, il y a cette jeune lycéenne, Liliane, interprétée magnifiquement par Talia Ryder, qui chante au début du film, d'ailleurs face à son miroir dans les toilettes publiques. Et puis derrière le miroir, un tunnel se révèle et elle rentre dans ce tunnel et telle Alice au Pays des Merveilles, de l'autre côté du miroir, elle rentre dans l'Amérique. C'est-à-dire qu'elle va voyager d'état en état à l'Est américain. C'est donc un eastern et c'est très intéressant puisque à travers elle, on va avoir un portrait de l'Amérique, des fachos nazis aux punks, en passant par des religieux et des réalisateurs de cinéma indépendants qui lui proposent de jouer dans un film historique. Et des scouts djihadistes. Donc on a vraiment un peu comme ça ce portrait très multiple. Et en même temps, à travers elle, on a le côté féerique, fantastique même parfois, entre rêve et cauchemar, portrait caustique d'un pays malade. Il est même évoqué Trump de manière codée, mais on l'a deviné. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé ce portrait de l'Amérique à travers cette jeune lycéenne. C'était The Sweet East.
C'est un super film et c'est très 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 drôle. Je vous recommande également.
Alors ces violons ponctuant comme ça une marche dans les couloirs de l'école de cette professeure de mathématiques, eh bien dans ce film, cette musique, on le disait pendant la diffusion de l'extrait, colle vraiment à l'image, hein, elle participe au thriller, à la tension, musique de la salle des profs composée par Marvin Miller.
La salle des profs, alors qu'une série de vols a lieu en salle des profs, Carla Novak mène l'enquête dans le collège où elle enseigne. Très vite, tout l'établissement est ébranlé par ses découvertes. Voilà, synopsis laconique pour ce film allemand, La salle des profs.
Cette professeure avec ses élèves, j'ai beaucoup aimé ce film. Un film qui invente constamment ses propres règles, qui constamment va nous mettre, nous spectateurs, dans une logique qui est celle du personnage. À un moment donné, quand une autorité vacille, il y a une... L'organisation du chaos, pardon.
Ça va. Nous avons perdu Benoît.
On va le retrouver. Bernard, la suite.
Tu veux continuer ? Donc en fait, elle est professeure de mathématiques, donc elle est régie comme ça par une volonté de bien faire.
Et à un moment donné, l'autorité vacille suite à ces vols. Et elle va être elle-même, il va y avoir la charge qui va s'inverser, c'est-à-dire qu'on ne va plus suspecter les voleurs, mais on va la suspecter, elle, d'avoir mal agi pour essayer de bien faire. Donc il y a une inversion de culpabilité, une autorité qui vacille, et donc un chaos qui s'installe. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est que ça commence de manière cartésienne, et progressivement, avec une tension du thriller, on a le chaos qui apparaît. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Et puis, y a aussi le monde des adultes d'un côté, le monde des enfants de l'autre. Mais finalement, tout le chaos fait que tout se mélange. Qui est enfant, qui est adulte. Parfois, les adultes se comportent comme des enfants. Et puis, il y a des enfants qui ont des comportements humanistes très puissants. Donc j'ai aimé voilà, cette manière qu'a le film d'être hyper aussi radiographié géographiquement, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans le huis clos de l'école, on sait où est la salle des profs, on sait où est la salle de cours, et progressivement, toutes les frontières se brouillent, et c'est très joli ce lieu d'ailleurs avec beaucoup de vitres, comme ici à la radio, et où on peut, dans une salle, voir ce qui se passe dans l'autre salle. Donc il y a comme ça un jeu de vitres et de surcadrage qui permet comme ça de passer d'un espace à l'autre. Voilà, donc je...
Oui, oui, non, mais je suis assez d'accord en fait. Avec ce que tu dis, Benoît, en fait, c'est marrant parce que c'est dans la forme, en tout cas dans sa construction, c'est un peu comme Michel Infis, donc c'est vraiment centré sur un personnage féminin qui est donc cette prof qui est incarnée par Léonie Benesch, Clara Novak dans le film. Et puis on a une mise en scène qui est totalement centrée sur un enfermement. Enfin, ce qui m'intéresse dans le film vraiment, c'est la topographie, sa mise en scène, le fait de faire de ce collège, cette salle des profs, un lieu d'enfermement, de cauchemar, un aspect claustrophobique qu'on retrouve aussi dans le format du film, hein, format carré, et après, effectivement, sans parler de thriller, c'est un film extrêmement tendu, assez haletant, et voilà qui est aussi un peu métaphorique de la société quelque part dans ce lieu unique, dans ce collège, on retrouve un peu ce qui forme un peu les contradictions de la société contemporaine occidentale. Après, je suis un peu à des moments, j'étais un peu, je trouve qu'il y a des choses qui sont pas crédibles. Alors après, c'est aussi la tension qui fait qu'on est emporté par le film. Mais pour dire un exemple, à un moment donné, cette prof qui est déjà dans la tourmente va donner une interview à un journal étudiant, un journal collégien. Et évidemment, elle va se faire piéger. Donc, moi, j'aime pas cette idée du spectateur qui est en avance sur le personnage. Là, on est clairement en avance. On se dit, mais pourquoi elle donne cette interview? Elle va évidemment se faire piéger et elle se fait piéger. Voilà. Donc, il y a quand même comme ça dans le film. Il y en a à plusieurs reprises des choses comme ça un peu qui sont pas crédibles ou des choses un peu lourdingues. Enfin, toute cette histoire du Rubik's Cube avec l'enfant, je trouve ça aussi un peu lourd. Voilà. Pierre.
Oui, effectivement, là, cet interrogatoire, interview par le journal étudiant qui ressemble un peu à une espèce de mélange entre Mediapart et le Washington Post. Ils sont tous là avec en soirée dans Les Hommes du Président. C'est un tout petit peu too much pour un journal.
Et c'est une manière d'inverser les rapports de pouvoir.
Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Mais ça, c'est un peu artificiel quand même. C'est un peu souligné, effectivement. Mais après, je trouve que c'est un bon thriller scolaire, ce qui est presque un genre en soi. Mais ça m'a fait penser à La Chasse de Thomas Vinterberg, par exemple, où d'un coup, tout le monde se retourne contre ce professeur. C'est un professeur de maternelle, mais bon, il y a un peu ce rapport assez similaire. Et puis, l'interprétation est, je trouve, très, 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 très bonne de l'actrice principale, qui est vraiment là de tous les plans dans ce film. Et puis, on est pris par cette histoire. On a envie de la sauver. On se rend compte qu'elle fait des erreurs, qu'elle n'aurait pas dû faire ça, et comment faire pour s'en sortir. On s'énerve contre d'autres personnages qu'on se met à détester, etc. Donc il y a un côté qui est très prenant et très efficace dans cette mise en scène, cette création du suspense. Après, je suis d'accord qu'il y a beaucoup d'artificialité dans le scénario. Déjà, on se demande pourquoi est-ce qu'elle n'a pas de vie en dehors du collège ou du lycée, voilà. Quel est son quotidien en dehors de cet environnement-là, et pourquoi est-ce qu'elle n'a pas d'autres élèves, puisqu'elle semble qu'elle est prof d'une classe, et on voit que cette classe, et on a l'impression que tout le monde connaît cet élève, cette mère d'élève, etc., dans un collège où il y a quoi, il doit y avoir 500 étudiants, lycéens, collégiens, quelque chose comme ça. Elle doit forcément avoir d'autres, donc une autre vie que ses cours. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça qui, quand on y réfléchit un peu, fonctionnent pas très bien, ou sont un peu artificielles. L'histoire du Rubik's Cube, effectivement, dont on sent à quoi ça va nous emmener, à quoi ça va servir un peu plus tard dans le film. Donc tout ça semble très écrit. Après, ça fonctionne quand même grâce à la mise en scène, grâce à cette musique qui joue beaucoup pour le suspense, grâce à l'interprétation, grâce aussi au presque plan séquence qu'on retrouve presque à la manière d'Elephant de Gus Van Sant, comme ça quand on la suit dans les couloirs du collège. Donc ça reste assez efficace comme film, malgré des petits défauts.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Partition assez céleste, d'ailleurs, qui se termine sur des étoiles, ce film sans jamais nous connaître. Musique de Émilie Laviennaise Farouche, une compositrice. Elles sont 7% en France. Elles sont trop peu. Eh bien, un plaisir d'en citer une, Émilie Laviennaise Farouche, qui est française d'ailleurs, mais qui compose un film américain.
À Londres, Adam.
Anglais, pardon.
Anglo-américain, ouais. Disons. À Londres, Adam vit dans une tour où la plupart des appartements sont inoccupés. Une nuit, la monotonie de son quotidien est interrompue par sa rencontre avec un mystérieux voisin, Harry. Alors que les deux hommes se rapprochent, Adam est assailli par des souvenirs de son passé et retourne dans la ville de banlieue où il a grandi. Arrivé devant la maison d'enfance, il découvre que ses parents occupent les lieux et semblent avoir le même âge que le jour de leur mort, il y a plus de 30 ans.
Est-ce que tu as aimé, Benoît ?
Pas vraiment.
Moi non plus.
Très déçu. Je trouve qu'on est passé à côté d'un grand film. Il aurait pu être un grand film spectral sur le deuil, sur une abstraction avec ces individus seuls dans un immeuble, donc élément assez surréaliste. Et on pourrait imaginer que tout est l'imagination du personnage qui voit revenir des fantômes des personnes qui sont mortes. Ça pourrait être un hommage aux morts du sida, par exemple, puisque ça effleure. On peut penser à 120 battements par minute, par exemple. Il y a des similitudes, notamment la musique de fin que l'on évoquera, qui peut rappeler le Bronski Beat de 120 battements par minute. Sauf qu'ici, tout est psychologisant, trop bavard, trop explicatif, un peu trop solennel pour me toucher pleinement.
Oui, enfin, c'est un film qui avait tout pour me plaire au départ, parce que j'aime beaucoup les films de fantômes, mais je trouve que ça ne fonctionne pas du tout. Je trouve que rien ne marche. En fait, j'attendais un grand film somnambulique et j'ai trouvé un film très chichiteux, ouais. Dépressif, dont les acteurs parlent tout bas et chuchotent, un peu comme Timothée Chalamet, comme ça. Mais on retrouve ça avec ces deux personnages, ces deux acteurs. Puis le fantôme des parents, l'idée de revenir en enfance, ça, je pouvais trouver ça intéressant au début, mais après, quand ça se répète plusieurs fois, c'est juste très agaçant. Et le fait que Harry lui-même, donc le interprété par Paul Mescal, soit aussi un fantôme, je m'en fiche de le dire, en fait, parce que je le ressens dès le départ, je l'ai ressenti dès le départ. Ça m'intéressait pas tant que ça, en plus. Et voilà, en plus, c'est un problème d'interprétation aussi, d'incarner des fantômes. Je trouve ça intéressant d'incarner des fantômes réalistes, mais là, je trouve que c'est un peu trop réaliste et je trouve que ça fonctionne pas du tout.
Ah bah, je suis content d'avoir le dernier mot parce que je suis pas du tout d'accord. Moi, j'ai beaucoup aimé ce film qui m'a vraiment ému. Effectivement, ça a l'air très artificiel comme ça, comme scénario de cette ces grands immeubles vides où un personnage vit tout seul et puis la métaphore fantastique de la retrouvaille avec ses parents. Mais déjà, je trouve que c'est superbement interprété. Déjà, Andrew Scott, donc le rôle principal, est vraiment un acteur formidable et qui tient là son meilleur rôle. On l'avait vu dans Fleabag notamment, où il jouait le fameux Hot Priest qui lui a valu sa légende. Mais là, il a vraiment un rôle tout en délicatesse, tout en tristesse et très émouvant sur l'ultra-moderne solitude d'être un jeune homme de milieu aisé, mais finalement profondément seul. Et ce que ça raconte aussi de l'homosexualité, de deux générations d'homosexuels différents. Il y a celui qui a connu l'époque du sida et où le fait d'avoir des relations était tout de suite la crainte, la peur et potentiellement une condamnation. Et puis la génération suivante, celle à laquelle appartient le personnage joué par Paul Mescal, qui est une génération qui n'a pas connu ça. Donc ce lien entre deux générations d'homosexuels, je trouve en creux assez intéressant. Et puis Paul Mescal fait toujours un peu le même personnage dans tous les films qui joue, ce gentil, triste, souriant et mélancolique, mais voilà, il le fait bien, donc why not.
C'est vrai qu'il est toujours un fantôme, un peu dans After Sun, il était presque un fantôme de sa
fille. Côté très fantomatique, ouais. Effectivement. Mais je trouve que Andrew Scott est aussi un peu un fantôme dans cette ville, dont on ne voit rien, dans cet appartement, dans cette solitude. Et ce que ça raconte sur la solitude, moi, m'a vraiment ému, et je trouvais ça assez efficace, et ça tient beaucoup à cette mise en scène, à la musique, à la manière dont on filme la nuit, l'appartement vide. C'est vraiment efficace. Je trouve que c'est pas un grand film, mais ça m'a emporté, je dois dire.
Mais oui, ça a emporté beaucoup de gens. J'ai vu passer beaucoup de retours extrêmement positifs sur le film, et c'est ça aussi qui m'avait porté pour aller le voir. Mais voilà, ça n'a pas marché sur moi.
Mais c'est un mélo, mais c'est un... il faut effectivement vouloir partir sur ce côté très mélodramatique, très triste surtout, mais triste sans être déprimant. Je trouve qu'à la fin, on s'en sort avec une espèce de tristesse joyeuse, quoi. Enfin, on n'est pas complètement plombé, le film n'est jamais plombant à aucun moment. Et je pense que ça tient vraiment à l'interprétation, c'est vraiment un film sur des acteurs, sur un acteur en particulier, et c'est assez rare finalement d'avoir des films qui laissent autant de liberté à leurs acteurs dans la manière de créer des personnages. Je trouve que c'est assez, surtout dans ce type de cinéma américain, parce que c'est un film effectivement qui se passe en Angleterre mais qui est distribué par Disney en France, donc c'est un budget relativement important. Ça fonctionne assez bien, et c'est un film qui ressemble beaucoup à la chanson de fin, je pense qu'on entendra en fin d'émission.
C'est maintenant d'ailleurs.
C'est une chanson qui joue de la tristesse, de la mélancolie et de la métaphore fantastique, Keep the Vampires from Your Door, pour parler de relations amoureuses difficiles et compliquées.
Juste avant qu'on écoute la chanson et que tu la présentes, Benoît, je voulais juste rappeler, parce que Aligre est partenaire du Festival du film de femmes, et Pierre, tu animes la table ronde critique avec le Syndicat de la France et la critique du cinéma vendredi à 14h à la Maison des Arts de Créteil.
Et ce sera diffusé prochainement sur Aligre FM.
Voilà, je voulais juste rappeler ça.
Oui, très bien.
C'est une version revisitée et plus féminine de notre table ronde critique, mais différente, voilà, pourquoi pas.
Très bien. Et à pour revenir sur Sans jamais nous connaître, donc on a entendu que les avis sont partagés. Et cette fin, donc, avec cette chanson de Frankie Goes to Hollywood, The Power of Love, ce qui est assez intéressant, parce que pour l'émission, pour récupérer cette musique, j'ai pu revoir le clip de l'époque. On était en 1984, et le clip de l'époque commence comme l'image de fin du film, qui correspond à ces étoiles, et où les personnages deviennent une étoile dans le ciel, et en fait c'est l'image du clip de Frankie Goes to Hollywood. Donc c'est assez intéressant, parce que le lien de la musique dans le film est aussi un lien visuel. The Power of Love, donc on peut se quitter là-dessus.
À bientôt.
À bientôt.
Feels like fire, I'm so in love with you, purge the soul, make love your goal, the power of love, a force from your soul.
protect you from the hooded claw. Keep the vampires from your door. When the chips are down, I'll be around with my undying, death-defying love for you. Envy will hurt itself. Let yourself be beautiful.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.